Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre frère. En ce premier jour de la semaine, soyez tous et toutes les bienvenus pour ce temps de culte. Nous sommes en communion les uns avec les autres malgré notre distanciation physique. Grâce à la musique, le partage de la Bible, la prière, relayée en ce moment même par le lien Internet et les réseaux sociaux. Nous accueillons avec joie David Cassan, organiste titulaire de l'Oratoire du Louvre, qui accompagne ce culte aujourd'hui. Nous continuons à prendre soin les uns des autres en respectant les signes et les consignes sanitaires obligatoires. Nous associons à ce temps de culte les familles actuellement éprouvées par le deuil de leurs proches en cette période difficile. Nous saluons particulièrement les amis qui nous rejoignent de divers pays. Merci de votre soutien et de votre présence fidèle. Et j'en profite pour vous souhaiter une heureuse année 2021 dans la confiance chevillée au cœur et au corps malgré les incertitudes de notre temps présent. Prions ensemble. Ô Dieu d'amour, tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler. Avec 365 morceaux de toutes les couleurs qui représentent les jours de ma vie. J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, le jaune et l'or de mes moissons. Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir où tu me sembles absent. Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi. Ô Dieu, je te demande simplement d'illuminer de l'intérieur ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton esprit de vie. Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à ouvrir ce culte maintenant avec le premier répond que vous trouverez dans les feuillets liturgiques au début du psautier français. Et je vous invite en même temps à jeter un coup d'œil sur ce vitrail fait par ma consœur Béatrice et qui représente quelque chose que vous allez ou que vous avez déjà reconnu. Nous te louons, nous te rendons grâce, ô Dieu, de nous avoir créés si différents les uns des autres. Nos visages ont toutes les couleurs et ta lumière passe sur leur variété. Nous te remercions et nous te louons de nous avoir donné plusieurs langages. Tu multiplies ainsi dans l'expression de l'homme la recherche de ton visage. Nous te louons, ô Dieu, car tu nous as donné de nous découvrir les uns les autres et de connaître la joie de la rencontre. Amis, frères et sœurs, je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 127 dans le recueil Le Psautier français. De ce psaume, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenez place. Écoutons maintenant ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement : aime ton prochain comme toi-même. Prions ensemble. Mon Dieu, continue à me donner pour que je puisse partager continue à me pardonner pour que je sache être indulgent. Continue à m'interpeller pour que je ne m'enferme pas en moi-même. Continue à me demander pour que je ne capitalise pas. Continue à me bousculer pour que je ne puisse pas m'installer. Et prends patience avec ton serviteur, ta servante, pour qu'il ne se lasse pas de te servir. Amen. Pour accueillir la grâce que Dieu nous renouvelle, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Et nous restons debout pour confesser notre foi. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de la terre et des cieux. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Nous croyons au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen.
Fidèle, le plus grand des amours.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Prenez place. Dans le Premier Testament, au livre de l'Exode, nous lirons au chapitre 3, à partir du verset 1er, et ce jusqu'au verset 18. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit : Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici. » « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai vu aussi l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi ? Pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte. » Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, « Je m'occupe de vous et de ce qu'on vous a fait en Égypte. » J'ai dit, « Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Évéens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Et ils t'écouteront. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, nous prendrons maintenant le cantique numéro 315, L'Éternel seul est ma lumière. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 3 et 6, et je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions ensemble. Mon Dieu, ouvre mon esprit à l'intelligence de ta parole. Et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu me parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, mon Dieu, accomplisse au cœur de ma vie sa mission, ta volonté. Qu'elle féconde ma vie et lui permette de porter des fruits, oui, que ta parole soit la vérité de mon existence et la lampe de mes pas. Amen. Amis, frères et sœurs, cela ne se voit pas beaucoup, je vous l'accorde, mais c'est tout de même une journée d'éducation biblique qui nous rassemble, même si les enfants ne sont pas physiquement avec nous au temple à cause des mesures sanitaires que nous devons toujours observer en ce temps de pandémie. Mais nous les retrouverons cet après-midi en visioconférence. Et nous poursuivons notre découverte des arbres de la Bible, notre fil conducteur de cette année. Alors en septembre, nous nous sommes penchés sur la construction du temple du roi Salomon avec le cèdre et le cyprès. en lien d'ailleurs avec les journées européennes du patrimoine. En octobre, nous découvrions le figuier comme symbole de la patience de Dieu. En novembre, c'était la myrrhe, symbole du soin de notre humanité. En décembre, nous avons parlé de trois arbres, disons anonymes, sous la forme d'un conte dont le bois servit à construire une mangeoire, puis une barque, puis une croix. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ce fameux épisode du buisson ardent que nous venons de lire au livre de l'Exode. Ce récit nous parle de Moïse, cet homme au destin si particulier et devenu incontournable dans l'histoire biblique. Ce Moïse dont on connaît plus ou moins l'histoire. On se rappelle sa naissance en Égypte au sein d'une famille israélite alors que le peuple hébreu est opprimé dans ce pays-là. Voué à disparaître, c'est caché dans une corbeille et abandonné dans les eaux du Nil qu'il sera sauvé. D'où son nom qui veut dire épargner ou tirer ou même rescapé. Élevé à la cour du Pharaon, mais témoin de l'esclavage du peuple hébreu, il tue un Égyptien qui maltraitait un Israélite et il cache son corps dans le sable. Mais voilà qu'il est découvert. Et le Pharaon apprend ce qui s'est passé et Moïse est obligé de s'enfuir. Il n'est ni plus ni moins qu'un criminel en fuite. Il fuit son pays de naissance, mais aussi le lieu de son éducation. Il s'installe dans le pays de Madian, où il est accueilli dans une famille de bergers. Il en épouse une des filles et il tente ainsi de se construire une vie, mais on peut supposer que le cœur n'y est pas. Avec sa femme Sippora, ou Séphora selon les traductions, il devient le père d'un fils qu'il nomme Gershom, qui veut dire « exilé », qui traduit à la fois sa situation personnelle et son état d'âme. « Je suis en exil dans un pays étranger », dira-t-il. À son tour, il devient un berger, et c'est justement en faisant paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, que Moïse va faire une expérience unique. Il bénéficie d'une manifestation divine. Il se trouve à l'Horeb, la montagne de Dieu. Il voit ce buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Intrigué, il veut en avoir le cœur net et il fait un détour pour comprendre ce phénomène. Il est alors interpellé par Dieu qui lui confie la mission de faire sortir d'Égypte le peuple hébreu. Dieu appelle Moïse par son nom. Il sait donc à qui il a affaire. Et avec la réponse de Moïse, « Me voici », nous sommes devant un récit véritable de vocation. Une vocation fondatrice pour Moïse qui, à travers cet appel, est en train de trouver le véritable sens de sa vie, sans savoir encore que cette épopée qu'il fera vivre à son peuple marquera à tout jamais l'histoire d'Israël. Sans savoir que cette sortie d'Égypte par le passage de la mer Rouge deviendra l'événement fondateur d'Israël. Mais pour le moment, tout reste à faire, nous n'en sommes qu'au commencement. C'est par ce buisson qui brûle mais ne se consume pas que Moïse découvre l'identité du Dieu de son peuple et par voie de conséquence sa véritable identité. Tout d'abord, il est invité à retirer ses sandales et il découvre que l'endroit où il est un endroit sacré, une terre sainte, dit la voix cachée dans le buisson. Cette même voix décline son identité. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu s'inscrit ici dans une chronologie et une généalogie. Le Dieu de tout un peuple se fait connaître d'abord de façon individuelle et l'aventure de la foi commence par un appel personnel à Abraham quittant sa terre d'origine pour s'installer en terre de Canaan. Promesse lui est faite de devenir le père d'une multitude et la promesse tardant à se réaliser, le chemin de foi se poursuit aux chaînes de Mamré quand trois visiteurs promettent qu'Abraham aura un fils dans sa vieillesse. Ensuite, c'est ce fils, Isaac, qui fait à son tour l'expérience de la présence de Dieu quand, ligoté sur le mont Moria, choisi pour être sacrifié, ce sacrifice n'aura pas lieu. Un mouton le remplacera. À la génération suivante, Jacob prendra le nom d'Israël au terme d'un combat nocturne au gué du Yabok, qui le laissera sans force et blessé dans son corps, mais rempli de bénédictions divines, qui lui permettra d'accueillir la réconciliation avec son frère Ésaü. Plusieurs générations plus tard, c'est au tour de Moïse de faire sa propre expérience de Dieu. C'est à lui de faire sa propre rencontre pour prendre sa place dans la chaîne des témoins. Parce que le Dieu dont parle la Bible est un Dieu qui ne se rencontre jamais de la même manière. Alors nous savons aujourd'hui que la Bible est un assemblage de plusieurs livres, écrits bien après que tous les événements qui y sont racontés se soient produits. La Bible est en quelque sorte un livre orienté qui raconte l'histoire de l'humanité avec le présupposé de la foi. Elle raconte l'histoire des hommes qui ont fait l'expérience d'une relation avec le divin à des époques différentes et déterminées par leur contexte historique et social. Dans le premier comme dans le second testament, il nous est présenté un Dieu dont la notion évolue au gré de l'histoire des hommes. Et d'ailleurs, c'est ce qui en fait la richesse de la foi des hommes. Ces témoignages constituent un trésor d'espérance pour nous aujourd'hui, comme ce le fut pour chaque génération qui nous a précédés, mais également pour chaque génération qui viendra dans le futur, quel que soit ce futur. Parce que, comme le montre le récit du buisson ardent, il nous est présenté ici un Dieu qui se souvient de son peuple, un Dieu qui comprend l'affliction de son peuple et qui désire non seulement le consoler, mais également le libérer. Cette libération sera donc incarnée par Moïse, qui reçoit une mission particulière, reconnaissable à cet appel dans un buisson insignifiant au départ, mais qui devient le lieu le plus important de ce récit, simplement parce que celui qui entend et discerne cet appel a répondu « Me voici », le rendant ainsi totalement disponible à ce qu'il espérait peut-être tout au fond de lui. Alors il s'agit maintenant de clarifier cet appel. Et cette clarification passe par les questions de Moïse. Il demande « Qui suis-je ? » Ben oui, c'est vrai. Qui est-il, ce Moïse, pour retourner dans le pays des souffrances de son peuple, pour retourner aussi sur le lieu de ses propres souffrances, voire de sa propre culpabilité? Moïse sait bien qu'il n'est pas parfait, il ne se sent pas à la hauteur de ce qui est demandé, mais qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon, l'homme le plus puissant de cette époque? Qui suis-je, moi, pour convaincre tout un peuple de ne pas avoir peur de quitter l'Égypte pour aller dans un autre pays qui, de plus, est déjà occupé par d'autres peuples? Ce ne sera pas simple. Et la seule réponse que Moïse reçoit, c'est « Je serai avec toi ». Aucun jugement n'est prononcé sur le passé de Moïse. Ce qui est important, c'est de regarder vers l'avenir. Et quel est-il, cet avenir, pour le peuple? Ce sera de venir justement sur cette montagne pour servir Dieu. Cette montagne appelée Horeb, dans ce passage, est l'endroit de la présence de Dieu. C'est aussi l'endroit où, un peu plus tard, Moïse recevra les 10 commandements ou les 10 paroles fondatrices d'Israël qui formeront ce code d'alliance à partir duquel un nouvel avenir sera possible pour le peuple libéré. Mais nous n'en sommes pas encore là. Moïse est toujours devant ce buisson qui brûle sans se consumer et il veut en savoir davantage. D'abord, il faut rejoindre le peuple hébreu, rassembler les anciens d'Israël, leur dire qu'il vient de la part du Dieu de leur père. Et si cela n'était pas suffisant? Et si jamais ils demandent quel est son nom, que répondre? Alors, Dieu donne son nom. Un nom imprononçable, ce tétragramme qui donne du fil à retordre au traducteur. Je suis qui je suis. Je suis ce que je suis. Je serai qui je serai. Je serai ce que je serai. Je suis ce que je serai. Avec ce va-et-vient entre présent et futur que l'on appelle inaccompli en hébreu. On pourrait aussi traduire par « je suis celui qui est et qui sera », ouvrant alors un avenir de confiance et de fidélité. « Je suis celui que je serai ». Autrement dit, comme le dit Paul Tillich, « je suis celui à qui on peut se fier, celui qui ne change pas, celui qui est fermement établi, qui tient sa promesse et qui répond à l'espérance donnée ». Et ce, de génération en génération. Alors, c'est peut-être là que réside la notion d'éternité. Le nom de l'Éternel est encore une traduction possible. Dieu présent dans un nom imprononçable, afin que l'on ne puisse pas mettre la main sur lui en l'enfermant dans une définition qui deviendrait fatalement un dogme. Dieu présent dans un nom imprononçable pour qu'il ne soit la propriété de personne, mais qu'il reste à la portée de chacun qui le cherche de tout son cœur. Dieu présent dans un nom imprononçable pour qu'il reste un inattendu, un élan, un désir à la manière d'un amoureux qui cherche son amoureuse comme dans le Cantique des Cantiques. Dieu présent dans un nom imprononçable afin que cette idée, cette identité se recherche en lien avec soi-même. Je suis. C'est le lien de la vie et de la relation. C'est le fondement de l'être que l'on découvre au plus profond de soi. Dieu présent dans la rencontre avec soi-même. Dans la vérité de notre être, mais aussi dans la relation avec l'autre. Et quand Moïse entend « je suis qui je serai », à ce moment-là, Moïse ne voit qu'un buisson incandescent. C'est pourtant le lieu de la rencontre entre Moïse et son Dieu. C'est une rencontre unique autour d'un buisson insignifiant. Bien sûr, les esprits rationnels ont eu besoin de savoir quel était vraiment ce petit arbuste. Et les explications ne manquent pas comme il se doit. Sont évoqués des buissons composés de variétés de fraxinelles dont les fleurs roses sont striées de pourpre. Il semblerait qu'elles secrètent une essence qui s'enflamme à la chaleur sans pour autant consumer les plants dont elle émane. Mais peut-être qu'il s'agit d'une autre plante, un parasite portant le nom de Laurentus, dont les fleurs rouges ressemblent à des tisons au grand soleil. Qu'importe. Ce n'est pas tant le type de buisson qui est important que le symbole qui en découle. Alors qu'il serait passé inaperçu aux yeux d'un autre, voici que pour Moïse, ce buisson revêt le symbole de la présence de Dieu, et ce, pour lui seul. Il est aussi le symbole de ce qui se passe à l'intérieur de son être, de sa personne, peut-être de ce qui le brûle, sa prise de conscience de sa propre situation, mais aussi de la situation du peuple qu'il a laissé en Égypte, réalisant que ça ne peut plus durer comme ça. Alors le vrai miracle de cette histoire, ce n'est pas tant ce buisson ardent que la vocation de Moïse en elle-même. Amis, frères et sœurs, je voudrais vous laisser quelques remarques qui peuvent être des points de repère pour accueillir ce texte aujourd'hui comme quelque chose de fondateur pour nous-mêmes. et qui peut nous aider, vous comme moi, à regarder l'avenir avec confiance malgré les difficultés qui nous attendent. Moïse est attiré par un phénomène surprenant, ce buisson incandescent qui brûle sans rien détruire. Il s'approche avec précaution en faisant un détour et en enlevant ses sandales pour signifier le caractère sacré du lieu. Mais le vrai espace sacré, c'est celui de la rencontre avec Dieu. C'est sa rencontre avec son Dieu qui fait cet espace sacré. Et il en est de même pour nous. Et par exemple, la chambre où l'on prie, ou l'endroit où l'on prie, quel qu'il soit, devient un espace sacré simplement parce qu'on y vit sa propre relation à Dieu. En fait, il y en a plein d'autres. Car ce qui nous est dit ici, c'est que la rencontre avec Dieu peut se faire ailleurs que dans un lieu dédié, y compris ce temple. Vous avez peut-être retenu au passage que Dieu se cache le visage, ou ferme les yeux, mais se cache le visage pour bien montrer qu'il est en présence du divin, nous dit le texte. Dans la compréhension de Dieu à cette époque, si on voyait Dieu face à face, c'est que soit on allait mourir ou soit qu'on était déjà mort. Mais la rencontre avec Dieu ne se fait pas par la vue, mais par l'écoute. Et cela passe par les oreilles et aussi par la compréhension du cœur, ce qu'on appellera l'entendement. Dans ce récit, Dieu se présente à Moïse comme le Dieu de son père, mais aussi comme celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il se présente donc dans une continuité généalogique, tout en rencontrant chacun suivant sa propre histoire. La foi se décline ici à partir d'une rencontre personnelle, positive ou négative, mais liée à l'histoire et à l'expérience de chacun. Et il n'y a pas de petite ou de grande rencontre, ou de rencontre homologuée, mais plutôt un catalogue de rencontres innombrables qui sont aussi importantes les unes que les autres, à partir du moment où elle donne un sens à la vie. Alors, oui, il y a des rencontres décisives qui orientent des destins. Mais en même temps, ces expériences sont à analyser avec d'autres, avec aussi l'ensemble des sciences humaines, à travers le prisme de la culture dans laquelle ces chemins de foi se vivent, sans oublier de faire fonctionner la raison et l'esprit critique. Mais si chacun fait sa propre expérience, alors il y a une exigence qui en découle. Il va falloir apprendre à ne pas juger le chemin de foi de l'autre. Et la foi reste quelque chose de l'ordre de l'intime qui va demander un respect infini et une exigence de la maîtrise de soi, pour ne pas succomber à la tentation de juger, de savoir si la foi de l'autre est bonne ou mauvaise. Dieu est présenté dans ce texte comme celui qui est et qui sera, avec un nom imprononçable, mais en même temps qui dit à Moïse qu'il sera avec lui. Nous avons présenté ici le Dieu d'un avenir et même du devenir de tout un peuple qui va sortir de l'esclavage pour entrer dans une terre promise où coule le lait et le miel. Mais la terre promise, finalement, n'est pas forcément un lieu géographique. C'est cette promesse qui est faite d'être avec l'être humain qui s'appelle Moïse ou quelqu'un d'autre, et où qu'il aille et quoi qu'il fasse. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, dans la foi, quelle qu'elle soit, puissions-nous avoir simplement, nous aussi, nos propres buissons ardents. À partir d'aujourd'hui, vous savez bien que tout commence à partir d'aujourd'hui, hein, pour nous permettre de reconnaître une présence de Dieu dans nos vies, y compris dans celles qui sont submergées par les épreuves, ou le doute, ou l'absence de sens, ou la peur du lendemain. La promesse est faite à Moïse, je suis avec toi. C'est une promesse aussi pour nous tous, qu'elle nous accompagne tous les jours de cette nouvelle année, dans toutes les circonstances de notre vie, des plus simples aux plus contradictoires, des plus ordinaires aux plus surprenantes, des plus incertaines aux plus rassurantes, des plus évidentes aux plus mystérieuses, des plus insoutenables aux plus magnifiques. Amen. au cantique numéro 338 que nous prendrons dans le recueil Louanges et prières. Nous chanterons les strophes 1 et 2 et je vous invite à vous lever. Prenez place.
Bonjour à vous tous. Ça va, Gérard, si je me mets là? C'est quand même assez compliqué de parler à une caméra qui est là et une assemblée qui est là. Donc, la caméra et les gens derrière l'écran me pardonneront. Mais je m'adresse à l'Assemblée. Au nom du Conseil presbytéral, à nouveau meilleurs vœux pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ou devant leur écran. Le virus circule, vous le savez, il circule de plus en plus fort. Nous avons donc décidé de garder la maison presbytérale fermée. Agnès l'indiquait, les enfants, c'est bien journée d'éducation biblique. Les tout-petits sont en visioconférence dès ce matin. Les plus grands le seront le 7 après-midi, mais la maison presbytérale doit rester fermée. Donc les cours de grec également seront par visioconférence et les répétitions du chœur. Le temple reste ouvert dans des conditions limitées, mais vous êtes quand même très nombreux. Le chœur était là la semaine dernière pour nous réchauffer le cœur. Cette fois-ci, grâce à Béatrice, nous avons un buisson ardent qui nous réchauffe aussi. J'espère que la caméra peut le voir parce que c'est vraiment très, très, très joli. Et c'est fait par les douces mains, les belles mains de Béatrice qui vraiment s'est proposée de le faire en début de semaine. C'est beaucoup de travail. Ça ne paraît pas, mais c'est beaucoup de travail. Le temple donc reste ouvert dans des conditions sanitaires très bonnes. Donc n'hésitez pas à rejoindre jeudi midi Agnès qui fait... une pause spirituelle ici de prière et de partage biblique tous les jeudis, donc en présentiel, donc venez. Agnès l'a annoncé, je crois, Madame Réverdin, Edmé Réverdin nous a quittés. Comme le disait Agnès dans sa prédication, Dieu est avec nous de génération en génération. Madame Réverdin est avec nous. Son mari l'a quittée il y a plus de 30 ans. Son des paroissiens extrêmement fidèles. Elle était avec nous depuis 1947 avec son mari. Donc le culte d'action de grâce sera présidé par Béatrice ce mardi à 10h15. Également, le conseil presbytéral s'est réuni hier, cette fois-ci en présentiel, avec les distances qu'il se faut. Les deux derniers étaient en Zoom, mais cette fois-ci en présentiel. Nous avons, en ce début d'année 2021, beaucoup réfléchi à ce que signifiait la pratique de l'Évangile. Ce qui paraît évident, mais en tant que conseiller, qu'est-ce que ça signifie? Bien entendu, nous vous ferons un compte-rendu, comme nous le faisons toujours, depuis notre élection, vous avez les comptes rendus de conseil presbytéral qui sont sur la table, ceux qui restent, et nous ferons de même. Pratiquer l'évangile, c'est aussi s'ouvrir aux autres, et le foyer de l'âme nous a passé un petit mot hier, parce que pour ceux qui connaissent le foyer de l'âme, qui est donc une parole également libérale, hein, nous soutenons la même théologie, organise un cycle de conférences, culte-conférences. Alors, vous avez depuis la semaine dernière leur programme. Le thème, c'est « Comment allez-vous ?» Ça sera rediffusé sur leur chaîne YouTube, c'est également en direct, mais si vous voulez y assister, il faut s'inscrire. Ils nous ont envoyé un petit mot, disons qu'impérativement s'inscrire, parce que le temple est beaucoup plus petit. Leur temple est beaucoup plus petit, donc ils sont limités à 80 personnes. Et de mémoire, leur adresse, c'est contact@foyerdelame.fr. Vous le retrouvez sur leur site. Donc voilà, première solidarité. Deuxième solidarité, Christine Huroux vient de me passer un petit mot pour me dire que le service pour l'armée du salut pourrait reprendre. Pas de vêtements encore, mais des produits d'hygiène. Donc dimanche prochain, nous vous le confirmerons dans la newsletter, mais n'hésitez pas à venir avec des produits d'hygiène, c'est vraiment fondamental. Et l'armée du salut en manque, ça paraît très simple, et pourtant c'est difficile, et puis ça coûte cher, donc c'est important que vous en apportiez. On les mettra au fond du temple dans des sacs, et on vous le confirmera dans la newsletter. Dernier, toujours de génération en génération, nous avons la troupe, non, je vais me tromper, la patrouille des cobras qui est là et qui vous proposera des gâteaux à la sortie. Alors pourquoi ils veulent des gâteaux et pourquoi ils veulent des gâteaux, mais surtout ils sont prêts à nous en vendre et à arrêter de les manger. C'est pour préparer leur camp, leur matériel, voilà, pour qu'ils puissent passer une année 2021 dans de bonnes conditions. Donc pensez-y à la fin du temple. Je pense que je n'ai rien oublié. Non, me dit Béatrice, Agnès, mes conseillers. C'est le moment de l'offrande. Juliette a le panier digital, comme d'habitude. Et puis voilà. Et pour la caméra, je reviens vers vous. Le don joyeux sur notre site, le bouton rose. Merci à tous et encore bonne année.
Prions les uns pour les autres. Dieu de la vie, en ce début d'année, nous te prions pour que tombent les résistances qui nous empêchent de te rencontrer, pour que nous inventions de nouvelles manières de nous retrouver les uns les autres en ce temps inédit de pandémie qui se prolonge. Tout au long de cette nouvelle année, donne-nous la force de l'amour qui fait du plus éloigné l'être le plus proche. Que soit enlevé de nos cœurs le levain de la haine et que la grâce du pardon descende encore et encore jusqu'à nous. Puissions-nous, chacun à notre manière, découvrir nos buissons ardents et que le cœur de chacun, chacune soit éveillé à l'écoute de cette parole prononcée un jour à l'Horeb. Je suis ce que je suis avec toi. Puissions-nous y reconnaître chacun à notre manière et selon nos expériences ta présence et d'y découvrir ta fidélité solide. Alors, à la manière de l'offrande que nous venons de faire tout à l'heure, renouvelle en nous le courage d'ouvrir nos mains, qu'elles nourrissent les affamés, qu'elles puissent vêtir celles et ceux qui sont nus, qu'elles guérissent celles et ceux qui sont blessés, qu'elles soutiennent les faibles. Ouvre nos yeux pour qu'ils voient la lumière et nos oreilles, qu'elles reconnaissent ta voix. Que soit vaincue notre lassitude et que ta paix soit établie dans nos cœurs, en nous et entre nous. Nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez encore l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, Et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amis, frères et sœurs, qu'aujourd'hui et demain l'Évangile soit votre bâton de pèlerin, que l'amour de Dieu soit le manteau qui vous réchauffe, que sa parole soit l'étoile qui vous guide, que l'amour du prochain soit la force qui vous met en mouvement tout au long de cette année. La grâce de Dieu vous garde sur votre chemin. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et merci de laisser les cantiques à votre place. Et nous écoutons en conclusion de ce culte le morceau final joué à l'orgue par David.